Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir, Soir Info qui vous accompagne comme chaque soir jusqu'à minuit sans aucune interruption en compagnie de Gabriel Cluzel ce soir. Bonsoir cher Gabriel, bien. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il y a l'un de vos acolytes qui est très en forme, je pense à Pierre Lelouch notamment qui a été très énergique. J'en en dirai pas plus pendant les secondes qui ont précédé l'émission. Ancien ministre bien sûr, spécialiste de politique internationale, Kevin Bossuet.
Et chanteur,
mais bon, ça reste entre nous normalement. Professeur d'histoire en banlieue parisienne. Bonsoir cher Kevin, bonsoir à Philippe Guibert, qui vend la mèche, donc ancien directeur du service d'information du gouvernement.
Normal, il est de gauche.
Amaury Bucco pour la police justice. Bonsoir, cher Amaury. Très joli pull à fermeture éclair dont vous avez le secret. Et évidemment, Yoann Isaï qui est avec nous ce soir dans la bonne humeur et dans le sérieux également, puisque nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité qui va nous emmener sur le terrain de la guerre russo-ukrainienne, puisqu'Emmanuel Macron, dans un premier temps, donc pour ce premier thème, continue d'afficher un ton particulièrement ferme face à la Russie de Vladimir Poutine depuis Prague aujourd'hui. Il a appelé donc de nouveau les alliés de Kiev à, je le cite, ne pas être lâches, mettant en garde contre l'esprit de défaite qui rôde face à une Russie devenue inarrêtable. Il a aussi assumé ses récents propos controversés sur l'option d'un possible envoi à l'avenir de militaires occidentaux en Ukraine. Écoutez un premier extrait du président de la République, il y a de quoi réagir.
Nous abordons à coup sûr, un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire.
Pierre Lelouch, premier décryptage. Emmanuel Macron persiste et signe, ça chacun l'aura compris. Il convient de ne pas être lâche. Que se cache-t-il selon vous derrière les propos du président de la République ?
Écoutez, on est effectivement devant un moment grave et moi je dois faire attention à ce que je dis parce qu'il s'agit du président de la République. Il s'agit de la politique étrangère de notre pays. Beaucoup de gens connaissent ma position. Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Je ne comprends pas bien ce qu'il essaye de faire. J'ai lu avant de venir la presse américaine et allemande. Les Allemands sont vent debout, considèrent qu'on n'a pas à leur donner des leçons de courage. Ils ont mis sur la table 17 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, alors que la France est très très loin derrière, même si on joue avec les chiffres à Paris, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Le porte-parole de la Maison-Blanche a dit tout à l'heure que le président Biden avait dit les choses dès le premier jour de la guerre. Il n'est absolument pas question de mettre des forces.
Alors, je me permets juste de citer le communiqué de la Maison-Blanche, puisque vous l'évoquez, c'est tombé ce soir. Il n'y aura pas de troupes américaines engagées sur le sol en Ukraine. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas ce que demande le président Zelensky. Il demande des outils et des capacités. Il n'a jamais demandé que des troupes étrangères combattent pour son pays. Déclaration de John Kirby, précisément le porte-parole du Conseil de sécurité nationale aujourd'hui. En effet, c'est un tacle indirect au président de la République.
Oui, c'est même plus qu'indirect. C'est ce à quoi je faisais allusion. J'ai également vu les réactions d'anciens ambassadeurs américains à l'OTAN d'une férocité rare sur la France et sur le président de la République. Donc je ne vais pas en rajouter. Je me perds en conjecture. Je ne sais pas très bien ce qu'il est en train d'essayer de faire, sauf le résultat le plus évident, c'est d'étaler les divisions à l'intérieur du camp occidental. Et puis, c'est la pire des choses qu'on peut faire aujourd'hui. À un moment où l'Ukraine est en difficulté, où le robinet des armes américaines s'est arrêté, soyons clairs.
En plus, du côté du Kremlin, on le prend pour une nouvelle provocation, a priori, c'est cette dernière prise de parole, encore une fois.
Soit on comprend ce que dit le président, la Russie est devenue inarrêtable, c'est un moment de bascule. Dans ce cas-là, c'est très simple. Il faut dire aux Français qu'on mobilise et qu'on met le pays en économie de guerre.
Mais ça, les Français ne sont pas prêts.
On fait des moulinets verbaux de ce style, et la seule chose que l'on fait, c'est diviser l'alliance. Donc, je ne veux pas rajouter ce soir parce que à chaud.
Heureusement que tu ne rajoutes pas.
Mais je suis franchement très inquiet de la tournure que ça prend. J'ai pas l'impression d'être lâche parce que j'ai pas la même analyse du tout que le président de la République. L'armée russe aujourd'hui a pris une telle recée en Ukraine. Elle a perdu quelque chose comme 300 000 hommes, 8 000 véhicules. Continue de perdre des navires, des avions tous les jours. Elle est tout sauf en état de reprendre la totalité de l'Ukraine, de l'occuper et de l'administrer, et après ça, de s'en prendre à l'OTAN. Je n'y crois pas une seule minute, je ne comprends pas.
Il nous donne le sentiment d'une forme d'urgence occidentale, alors que sur le terrain, la réalité de cette guerre... Et quand vous disiez qu'il nous perd un petit peu également, je vais faire tourner un peu la parole. Quand vous disiez qu'il nous perd également, il faut regarder, par exemple, ce qui est dit par le président de la République dans le quotidien slovaque, dans le quotidien tchèque, pardon, Pravo, ces dernières heures, et... On a l'impression d'un zigzag avec cette déclaration vidéo qu'on vient d'entendre. Il dit donc dans la presse tchèque aujourd'hui, nous lançons le débat, donc à propos toujours de la même thématique, nous lançons le débat et réfléchissons à tout ce qu'il est possible de faire pour soutenir l'Ukraine. J'ai toujours été clair sur le cadre qui était le nôtre. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade. En réponse à une question, et là il parle aussi également des troupes qu'il évoquait la semaine dernière, envoyées donc les troupes occidentales, en réponse à une question qui m'était posée sur l'envoi des troupes, j'ai répondu que rien n'était exclu. C'est un, rien qu'entre deux citations, il y a un zigzag total. Et vraiment, on est assez perdu quand même par les déclarations et on se demande où il va et ce qu'il cherche.
Moi, j'ai l'impression qu'il essaye de corriger un petit peu le tir de sa déclaration hasardeuse, on va la qualifier comme ça, concernant un éventuel, un possible, une option de troupes françaises ou autres en Ukraine. Il pourrait avoir raison sur un point, Emmanuel Macron. Il pourrait avoir raison sur le fait que, compte tenu du blocage américain, du blocage du Congrès, du vote du Congrès, la situation de l'armée ukrainienne est incontestablement beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Et donc, de ce point de vue-là, il pourrait avoir une démarche de dire aux Européens... Mais collectivement, pas en faisant un coup solitaire, il faut que nous nous mobilisions parce qu'on ne pourra pas, compter éternellement et on ne peut déjà plus compter éternellement sur l'aide américaine. Ça serait une logique qui se défendrait tout à fait, qu'il pourrait complètement concerter, je pense, avec le chancelier allemand, avec les autres dirigeants européens. Or, bizarrement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et c'est là où il y a une perte de maîtrise du verbe de la part d'Emmanuel Macron, qui me paraît très gênante dans ce moment-là, alors même qu'il pourrait avoir raison, en sonnant un petit peu le Tosquin, parce que je pense que la situation de l'Ukraine est bien plus compliquée qu'elle ne l'était il y a quelques mois, au moment où tout le monde, de façon peut-être un peu aventureuse, pariait sur la contre-attaque ukrainienne, laquelle contre-attaque n'a pas produit les résultats qu'on espérait.
Écoutez ce deuxième extrait, on continue évidemment de commenter avec ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Emmanuel Macron qui rappelle donc qu'il faut être fort face à Vladimir Poutine.
Je ne reviendrai pas sur tous les commentaires qu'il y a pu y avoir, ni ne commenterai moi-même mes propos. Ils étaient clairs, assumés et précis. Ça fait 2 ans maintenant que nous répétons à longueur de conférences de presse: la guerre revient sur le sol européen. Cela fait 2 ans, nous avons révélé l'étendue des matériels déjà livrés, les montants déjà livrés. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Je suis convaincu que... Justement, la clarté assumée de ses propos et ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace que nous fassions quoi que nous disions avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous.
Mais que nous dit Gabriel, le président de la République? Encore une fois, j'ai l'impression que à travers son discours, là, la France va partir seule en guerre contre la Russie. Il y a un moment, il faut avoir les moyens de ses ambitions également. Et a priori, nous ne les avons pas.
Cette inversion de partition, d'une certaine façon, parce que habituellement, c'est les Américains qui sont en guerre et nous qui sommes derrière en disant bon, vous êtes sûr qu'il faut y aller. Et là, c'est tout à fait inversé. Alors, il a des accents churchilliens. Hein. C'est quand il dit il faut pas être lâche, il dit vous savez la phrase de Churchill, vous avez préféré le déshonneur à la guerre, vous aurez la guerre et le déshonneur. Quand il traite les gens de lâche, c'est ça. C'est toujours cette référence à la dernière guerre qui est toujours l'horizon à dépasser. Et quand il parle d'esprit de défaite, ça veut dire que dès quelqu'un commence à lever le doigt en disant mais attendez, c'est quand même pas très prudent ce que vous êtes en train de dire. Ah, vous êtes animé par l'esprit nudique. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de répondre parce que quiconque émet un bémol est aussitôt, je caricature à peine, accusé d'intelligence avec l'ennemi ou à minima de lâcheté. Moi, j'ai un peu peur de son hubris, je vais vous dire très honnêtement. Je crains qu'Emmanuel Macron et des ambitions démesurées, et parfois elles me font peur pour l'Europe, pour cette guerre qu'il se sentirait prêt à mener. Il ne faut pas oublier que notre pays a perdu l'habitude des guerres conventionnelles, absolument conventionnelles. Et la Russie est évidemment bien plus exercée. Emmanuel Macron, du fait de son âge, de ce qu'il est, l'ignore aussi, quoi qu'on en dise, hein, autant que nous. Donc c'est vrai que ces choses-là, dites de cette façon-là, effraie.
Mais en fait, il cherche à nous faire comprendre à travers la prise de parole de la semaine dernière, celle encore plus poussée aujourd'hui, en tout cas plus argumentée, on va dire, aujourd'hui, il cherche à nous faire comprendre en fait que nous sommes à un stade où la Russie nous menace directement.
Non, je crois que vous vous trompez complètement en réalité.
Ça arrive au meilleur.
Mais pas seulement vous. C'est-à-dire que...
Tout le monde. Tout le monde sauf vous, en fait.
Il me semble que dans l'esprit du président de la République, il n'a jamais été question d'envoyer des militaires français combattre les troupes russes en Ukraine. Ça n'est pas du tout le sujet.
Quel est le sujet?
Peut-être, c'est une hypothèse, que d'une manière effectivement... très très maladroite et voyant venir les risques induits par une élection de Donald Trump en novembre prochain, il a voulu faire comprendre aux Européens qu'il était temps de se réveiller, de prendre leur sécurité en main, d'augmenter le budget que les Européens consacrent à la défense, de s'armer davantage et de se préparer éventuellement.
Mais il est tout seul à le penser.
Mais non, il n'est pas tout seul à le penser. Le fait qu'il faille augmenter les dépenses militaires, les pays européens sont en train de le faire. La France le fait et le fait de manière quand même assez importante, mais les pays européens sont en train de le faire.
Comment ça, allons ? On est en train à peine d'atteindre 2% du
PIB. Oui, on sera l'objectif, c'est 3%. Là, on est à 50 milliards. L'objectif, c'est 80.
Vous savez quel est le... Vous savez combien on dépensait dans les années 50?
Non, mais je suis d'accord avec vous.
On parle de réarmement.
Mais je suis d'accord.
On est en train de nous dire qu'on est en 1938. Il le dit. Son ministre des Affaires étrangères le dit. On est à un moment de bascule.
Non, mais je crois qu'il a voulu faire prendre conscience aux Européens qu'il ne faudrait plus compter sur les États-Unis. Et peut-être aussi a-t-il voulu envoyer un message à Vladimir Poutine. C'est une autre hypothèse, hein, en lui disant nous soutiendrons l'Ukraine coûte que coûte. Notamment des moyens financiers, nous ne lâcherons pas l'Ukraine. Donc peut-être était-ce aussi une invitation, quelque part, à venir à la table des négociations. Je n'en sais rien, mais ça peut s'entendre.
Ouais. Pierre Lelouch.
On est dans un discours, depuis un certain nombre de temps, depuis une dizaine de jours, entre lui et ce que martèle son ministre des Affaires étrangères, on est en 1938. C'est un mouvement de bascule. Donc il appelle tout le monde à se préparer à 1938. En même temps, il dit qu'il ne veut pas faire la guerre. Enfin, il dit que la Russie est inarrêtable. Bon.
Qu'est-ce qui nous sépare, Pierre, puisque vous utilisez cette comparaison, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui, franchement, objectivement, d'une troisième guerre mondiale?
Troisième guerre
mondiale. 1914. La seule chose qui nous sépare d'une troisième guerre mondiale aujourd'hui, c'est les armes nucléaires. C'est la seule chose qui fait réfléchir les somnambules qui nous gouvernent.
Enfin, de jouer à Sperper.
Non. Vous savez.
Non.
Pourquoi je joue pas assez. Non, mais je peux.
Qui joue à nous faire peur?
Je peux terminer.
En octobre
2022. Je vous recommande de lire ce qui a été publié hier dans le New York Times. Une très longue étude très précise sur ce qui s'est passé en octobre 2022. En octobre 2022, les troupes russes étaient en déroute. L'armée ukrainienne les poussait surtout dans la direction du sud et ils n'étaient pas loin de pouvoir traverser le Dniepr et de foncer vers l'Ukraine. À ce moment-là, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu, a téléphoné à 4 ministres occidentaux, dont le nôtre, pour lui expliquer, tenez-vous bien, que les Ukrainiens allaient faire exploser une bombe sale. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe sale? C'est
bombe chimique?
Non, c'est une bombe conventionnelle autour d'une quantité d'uranium.
Une mini-bombe nucléaire?
Une bombe sale, une bombe radioactive qui aurait explosé sur le sol ukrainien, disaient les Russes, et qui aurait déclenché une escalade. Donc ils prévenaient les gouvernements occidentaux de dire aux Ukrainiens d'arrêter ça, sinon ça se passerait mal. Dans la foulée, les Américains ont intercepté des conversations téléphoniques entre des officiers russes qui parlaient d'utiliser une bombe nucléaire tactique pour stopper les divisions ukrainiennes qui menaçaient le sud de l'Ukraine. Voilà. Alors, quand on nous dit qu'il n'y a pas de danger des armes nucléaires, il y a un danger des armes nucléaires. La seule chose qui, jusqu'à présent, a empêché que tout le monde s'en mêle, comme en 1914 d'ailleurs, et parte pour la gloire,
c'est l'arme nucléaire.
C'est l'arme nucléaire. C'est ce que Biden a dit dès le premier jour, on n'ira pas.
Oui.
On n'ira pas parce qu'on ne veut pas de la Troisième Guerre mondiale.
Philippe reprend.
2 ans après, on a le président de la République française qui dit exactement l'inverse. Toutes les options sont ouvertes. Je suis obligé de faire peser une incertitude stratégique sur le russe. Donc, il faut qu'on examine ça. Immédiatement, tous les autres ont dit pas question. On ne veut pas rentrer en guerre avec la
Russie. D'accord, j'ai bien compris.
Voilà, ça, le sujet. Bon, après, si on pense que cette option est dangereuse, on a le droit de le dire et on a le droit de ne pas être lâche. On a le droit de penser aussi que ce n'est peut-être pas l'intérêt national et qu'on ne partage pas la même position que celle du président et du ministre des Affaires étrangères.
Philippe Guibert, je vous donne juste ce qui a été dit en off aux journalistes à Prague de la part du président de la République encore aujourd'hui. Quand j'ai parlé 10 jours avant du sursaut avec le président Zelensky, c'était pensé comme tel. Je pense que si on est passif ou si on fait comme ce qu'on fait depuis 2 ans, le risque qu'on court, c'est de subir des revers sur le terrain, de subir des déconvenues possibles côté américain. On doit reprendre de l'initiative si on veut quand même remporter cette guerre qui est stratégique pour nous.
Tout ça me paraît
ces mots-là. Vrai. Ouais, mais ce que j'entends, c'est que la France est en guerre contre la Russie.
Mais attendez. Malgré toute la maladresse de son propos, le président de la République.
C'est le président de la République française.
Là, on a un débat, comme si on allait. Vraiment, la situation faisait qu'on était en train de mobiliser nos troupes pour les
préparer. On ne parle pas sur du vide, Philippe.
Je termine.
Oui, mais on ne parle pas sur du vide.
Que cette phrase du président de la République qui a été extrêmement maladroite et très, très mal calibrée, c'est pour ça que je parlais de problème de maîtrise du verbe tout à l'heure, je crois qu'on en sera tous d'accord. Mais là où je rejoins Johan Usaï, c'est qu'il n'a quand même pas annoncé qu'il allait envoyer des troupes. Il faut rester sérieux quand même. Donc ne jouons quand même pas trop à nous faire peur. C'était une façon extrêmement maladroite de poser un vrai problème.
C'est lui qui joue à nous faire peur.
Ce que vous venez de dire concernant le off, l'explication qui a été donnée aux journalistes présents à Prague, va tout à fait dans ce sens. Parce que la réalité, je le répète, et c'est ça le vrai sujet, Pierre. C'est pas la guerre nucléaire. Le vrai sujet, c'est que l'Ukraine est aujourd'hui sur la défensive, qu'on sait parfaitement pourquoi, à cause du blocage par les soutiens de Donald Trump des livraisons d'armes qui étaient prévues aux Ukrainiens, et que l'Europe doit se préparer à prendre d'une manière ou d'une autre une forme de relais, en tout cas de monter en puissance.
Personne ne conteste la deuxième partie de ce que vous venez de dire.
C'est ça le sujet. Ne nous focalisons pas sur une phrase franchement très maladroite. Depuis 10 jours, est-ce que vous avez l'impression qu'on préparait nos armées à débarquer en Ukraine?
Non.
Donc restons sérieux.
Écoutez juste, et Gabriel va
reprendre. Le président de la République essaye de rattraper sa bourde d'il y a 10 jours.
Ouais, voilà, grande façon de rattraper sa bourde, de l'assumer, de persister et de signer. Écoutez le général Palomeros que nous avons joint sur ce qu'il pense de cette stratégie du président français.
Moi, je comprends le fait que le président français essaye de reprendre en quelque sorte la main, une sorte de leadership, pour employer le terme, devant l'incurie, si je puis dire, américaine. Dans l'immédiat, il y a urgence. Nous avons failli. Nous avons failli dans la fourniture, collectivement, dans ce que nous devions, dans notre engagement pour fournir à l'Ukraine les armes dont elle avait besoin pour tenir face à la Russie. Les Ukrainiens tiennent malgré tout, mais ils tiennent à la force de courage. Ils n'ont pas les munitions nécessaires, ils n'ont pas les armes nécessaires aujourd'hui pour se battre. Ils sont obligés de pallier comme ils le peuvent.
Gabriel Cluzel, réaction.
Non, mais moi je suis pas d'accord avec l'idée que Emmanuel Macron n'aurait pas maîtrisé son verbe. S'il y a quelque chose qu'il maîtrise parfaitement bien, c'est son verbe. Oui. C'est à peu près la seule chose dans le pays du reste du pays.
Depuis 7 ans, donc, Gabriel.
Des troupes, il a utilisé le mot troupe, ça a une signification particulière. C'est pas des munitions, des aides matérielles diverses. Et du reste, s'il avait vraiment fait une maladresse rhétorique, sémantique, eh bien, il ne l'aurait pas rattrapé de cette façon-là. Quand Biden veut dire que les Américains n'iront pas, tout le monde comprend très bien. Donc là, en réalité, il revient là-dessus, mais par une ambiguïté. Évidemment que les Français sont inquiets. Moi, je ne sais pas vous, mais autour de moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont très inquiets par ces propos.
Oh oui,
et qui me disent,
vrai,
mais on ne sait pas où on va. Oui, je confirme. Et qui se disent, en plus, c'est une guerre qu'on ne connaît pas. Ça sera d'une certaine façon une guerre, la guerre des étoiles. Hein, c'est une guerre, mais en même temps, la guerre de 14, avec une guerre de tranchées, comme on peut voir actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que les Français y sont préparés? Est-ce qu'ils veulent voir leurs enfants partir? C'est une vraie question. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être personne d'inquiet autour de vous, mais je peux vous dire que ce n'est pas mon cas.
Bon, allez. D'accord. Tout dernier mot, Pierre, ouais. Pour conclure.
Là où c'est surréaliste...
Est-ce qu'on peut essayer de se rassurer un petit peu, là?
Bien, écoutez, je pense que tout ça, c'est de la com. C'est ça que je pense. Je pense qu'il essaye de prendre le leadership de l'Europe à un moment où les Américains sont affaiblis.
Il la divise pour en prendre le leadership.
Il était perdu du côté des pays du Visegrad, c'est-à-dire les pays de l'Est. Il avait dit qu'il fallait ne pas humilier la Russie et tout ça. Ils lui ont pas pardonné. Depuis un certain nombre de mois, il court derrière. Depuis sa visite à Bratislava, il se présente comme le champion de l'Europe centrale contre les gros lâches qui vont pas y aller. Sauf que les gros lâches, ils disent, regardez les chiffres. Nous, les Allemands, on a mis 17 milliards sur la table. Vous avez mis 600 millions. Ça ne le fait pas. Vous voulez vraiment aider les Ukrainiens, mais faites-le. Le problème, c'est que nous payons 30 années de désarmement budgétaire unilatéral.
C'est pas tout
il
n'y
a plus
exact.
Rien dans les stocks.
C'est pas
la vérité aujourd'hui... Attends, je veux terminer.
Et on va conclure
quand on parle de guerre conventionnelle et qu'on fout la trouille à tout le monde...
On double le budget militaire quand même en France en 10 ans.
Le budget
on peut
militaire,
faire plein de critiques à Macron, mais il double en 10 ans.
Mais oui, mais il double à partir de rien. Il double à partir
rien,
de rien.
La on a plus grosse armée d'Europe.
Mais enfin, on a 200 chars.
Oui, oui.
Punaise, mais je veux dire, c'est un tout petit peu mon métier, quoi. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de 200 chars de combat en France, 200 en Allemagne, 150 en Angleterre. Ils ont même plus les narins pour faire marcher un porte-avions en Angleterre. C'est ça le désarmement budgétaire. On manque.
Il a été encore beaucoup plus important.
Les rapports parlementaires vous disent qu'on peut tenir que quelques jours. De quoi nous sommes en train de parler? De quelle guerre on parle?
Bon, c'est
sinon
de la com.
D'un risque d'escalade nucléaire. C'est ça qui est grave.
Ce qu'on retient donc, c'est que c'est de la communication risquée, mais c'est de la communication et que le président de la République ambitionne de prendre les rênes un petit peu en termes de leadership européen.
C'est ce qu'il essaye de faire. Oui.
Bon, thème suivant. Je voulais que vous commentiez cette petite séquence savoureuse, chers amis, avant de passer à la suite. Mathilde Panot, vous le savez, chef de groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui milite, comme beaucoup d'insoumis, pour que la France reconnaisse l'État de Palestine au sein de l'ONU. Comme 139 autres pays d'ailleurs. Mais s'est-elle placée, la Palestine, sur une carte, Madame Panot? Interviewée ce matin sur Public Sénat, la députée du Val-de-Marne, présidente du groupe NUPES à l'Assemblée, donc n'a pas su répondre quand le journaliste lui a demandé si cette région se situait à l'ouest ou à l'est du fleuve Jourdain. Regardez.
Vous appelez à la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Vous avez déposé une proposition de résolution, je crois, à l'Assemblée nationale. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain.
Pourquoi cette question?
Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir.
Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU.
Oui, mais physiquement, géographiquement, vous le situez où cet État de Palestine?
Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU.
Mais très bien, mais la France insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, oui, je crois, de l'État,
oui,
de Palestine.
Comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, et bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà.
Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain.
Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, non, en fait, je ne vais pas aller vers des choses
où,
qui...
Vous situez l'État de Palestine
mais sur le droit international, point. Sur le droit international, d'accord, sur ce qui a été dit sur le droit international.
On va informer Mme Panot, comme ça la prochaine fois elle n'aura pas à botter en touche. Vous voyez, le Jourdain donc sépare Israël de la Magnifique. Jordanie, ou la Cisjordanie bien sûr. Et donc, vous le voyez, la Palestine se trouverait donc à l'ouest du Jourdain, à l'est de la mer Méditerranée. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a mis en bas de l'écran, c'est un peu facile, mais on pouvait difficilement s'en priver. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, Mathilde Panot est un peu à l'ouest sur cette question.
Oui, elle est complètement à l'ouest et on voit bien que sur ce sujet, elle a ajouté l'incompétence à l'indécence. Et quand vous demandez à beaucoup de gens qui disent qu'ils soutiennent la Palestine, vous vous rendez compte qu'ils ne savent même pas placer la Palestine sur une carte. Il y a notamment Simon Mousse, qui est un journaliste qui avait fait ça dans la rue en interrogeant des pro-palestiniens, et on avait vu qu'ils étaient incapables de placer la Palestine. Donc on se retrouve dans une situation, il y a une Madame Panot qui perd évidemment complètement de son crédit, et on sent bien que derrière tout ça, depuis le 7 octobre, à la France insoumise, il y a un électoralisme puant, parce que le but, c'est d'aller draguer, en effet, une partie de l'électorat des banlieues, c'est de mettre en avant l'aspect identitaire des choses, surfer sur l'antisionisme qui n'est que le faux nez de l'antisémitisme, et le fond, quand on regarde bien, ils n'y connaissent absolument rien. Moi, je dis que ça en dit long un petit peu du naufrage de la France insoumise et de son incapacité, finalement, à offrir des grilles d'analyse à la hauteur de leur véhémence à l'Assemblée nationale.
Ça m'a aussi fait penser à ce micro-trottoir que j'avais vu devant une université américaine. Vous avez des étudiants wokistes qui scandaient « From the river to the sea », du fleuve à la mer. Donc, et il y avait et le fleuve Jourdain, bien sûr, tout le monde l'aura compris, sauf qu'il y a quelqu'un, un journaliste ou je ne sais plus qui, un YouTuber était venu les voir. The river, quel river, quel fleuve et à la moitié était un petit peu circonspect, n'était pas capable de dire de quel fleuve il parlait, alors que c'est juste un slogan qui appelle à la mort et à l'extinction de l'État d'Israël. Elle brille par son incompétence sur cette question-là. Ses électeurs, par contre, elle sait parfaitement où ils se trouvent.
Hein. Oui, à l'évidence, mais j'ai longtemps pensé, comme Kevin, que la France insoumise, que ses dirigeants, en tout cas une partie d'entre eux, étaient dans une stratégie électorale, draguer un certain électorat en critiquant Israël, en tenant des propos absolument ignobles. Et en fait, quand on fait la liste des propos qui ont été tenus ces derniers mois, je suis maintenant convaincu qu'il y a chez une partie des dirigeants de la France insoumise un véritable antisémitisme. Oui. Voilà, on n'est plus dans une stratégie électorale. Il y a maintenant chez eux, j'en ai la conviction.
Être antisémite et savoir, savoir où se trouve le Jourdain. Israël est à l'ouest ou à l'est du Jourdain. Quand vous appelez,
les semaines qui ont suivi le 7 octobre, je pensais que la France insoumise était uniquement dans une stratégie électorale. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'un certain nombre de ses dirigeants sont profondément antisémites. Alors là, aujourd'hui, elle prouve effectivement son incompétence. Elle prouve que le sujet dont elle parle le plus depuis le 7 octobre, en réalité, elle ne le maîtrise pas du tout, parce que ne pas savoir placer la Palestine...
Ça fait mauvais genre de passer ses journées à prôner l'État palestinien et pas savoir...
Et on voit bien donc que ça montre en fait qu'ils ne connaissent rien à ce dossier, que comme beaucoup de gens qui ont un avis sur cette question, en fait, le sujet, le conflit israélo-palestinien, ils ne le maîtrisent pas du tout, et ça montre qu'ils sont uniquement enfermés dans une haine de l'État d'Israël et donc une haine du juif en réalité. C'est ça qui se passe au sein de la France insoumise, si vous voulez. Et pourtant, elle devrait savoir où se situe le Jourdain. Parce que quand on crie, quand on scande la Palestine de la mer au Jourdain, c'est-à-dire éradiquer l'État d'Israël, quand on scande ça dans certaines des manifestations où s'est rendue Madame Panot, ça devrait quand même l'inciter à se renseigner sur la position du fleuve Jourdain.
Il nous reste 2 minutes, si on peut avoir des petites interventions, les amis. Gabriel, Pierre, Philippe, Amaury voulait dire un petit mot également, s'il vous plaît.
Non, mais en réalité, il n'y a pas de raisonnement rationnel. Elle est à l'image de beaucoup de ses électeurs, c'est-à-dire que le mot Palestine est devenu un totem ou un cri de guerre ou un cri de ralliement, tout ce qu'on veut, idéologique. Mais en réalité, sur le fondement, il n'y a pas eu de démarche rationnelle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sinon, à un moment donné, évidemment, on se serait penché sur une carte. Mais on peut le dire de nombreux épisodes de l'histoire de France qui aujourd'hui sont récupérés par la gauche pour faire de la repentance. Vous savez, il y a eu un certain nombre là aussi de micro-trottoirs qui serait drôle s'il n'était pas aussi tragique, c'est qu'en réalité, vous avez des slogans idéologiques pour des questions qui n'ont jamais été creusées. On peut, remonter à par exemple, la guerre d'Algérie. Enfin, si vous voulez, nous, on avait envoyé à nos journalistes poser des questions à la sortie d'une université, mais c'était le festival, l'ancien régime, aussi tout ce qui concerne les rois de France. Là aussi, c'est assez impressionnant. Donc, ça signe aussi sans doute la défaite de l'éducation nationale, mais aussi le parti pris idéologique. Pas a été pris sur la rationalité et sur la construction.
Quel diplômé de Sciences Po, Mathilde Panot. Je ne sais pas si je dis une bêtise.
Mais est-ce que je peux faire une remarque? Je vous en veux beaucoup de m'obliger à, non pas défendre, mais enfin à relativer ce que vous dites à propos de Mme Panot. Parce que
vous trouvez qu'on l'a piégé? Que le journaliste l'a piégé?
Non,
c'est vous pas savez ça. L'ironie
il est évident. Il est évident.
Pour Jourdain, ce brillant journaliste.
Ouais.
Excellent.
Il est évident que pour elle, c'est une pétition de principe et qu'elle n'est pas entrée dans le fond du dossier et qu'elle n'a pas regardé la carte. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je voudrais néanmoins souligner qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent, qui pensent. Il ne semble pas être tous antisémites que la question d'un État palestinien et d'un double État est une question au minimum légitime.
Vous aurez compris, Philippe, qu'on n'est pas sur le fond là et qu'on met en avant juste le fait qu'une défenseur.
Oui, mais si je peux me permettre, on ne peut pas disqualifier. On ne peut pas disqualifier la question de l'État palestinien à partir de Mme Panot.
On disqualifie sa connaissance géographique de la Palestine.
Juste une chose quand même.
Moi, j'aurais bien ajouté un mot sur la guerre d'Algérie en disant que c'était quand même pas la plus grande guerre de la France.
Non, mais par exemple, je vais rajouter quelque chose, c'est que si vous demandez, par exemple, à la sortie d'université, est-ce qu'il y a eu des pieds noirs qui ont été massacrés par le FLN, ils vous disent non. Non. Ça n'existe que dans l'autre sens.
Bah,
écoutez, il y a un
petit mot. Je vous ai vu. Pierre, un petit mot. Et Amaury, on a 30 secondes, les amis. Je suis désolé.
Bon, en 30 secondes, on ne peut pas régler le problème israélo-arabe, mais on peut lui conseiller quand même de s'acheter une carte et de regarder un peu l'histoire de cette terre qui est très complexe.
Ça lui ferait pas de mal.
Je pense que ça lui ferait du bien.
Julien, moi juste un petit mot. Moi, je ne suis pas forcément de votre avis. Je pense qu'elle savait. J'imagine. Je ne peux pas ne penser qu'elle ne savait pas où se trouvait, si vous voulez, le Jourdain. Et d'ailleurs, effectivement, il y a ce fameux slogan dont vous parlez. Donc, on voit très bien où ça se situe. En tous les cas, quand même. Moi, je pense qu'elle s'attendait à un piège et qu'elle s'est dit, si je dis un mot de travers...
La question est très claire. La Palestine est-elle à l'est ou à l'ouest du Jourdain? À l'est, vous avez la Jordanie. À l'ouest, vous avez l'État d'Israël ou la Palestine, si vous prenez la carte de l'ONU de 1948.
Qu'est-ce que vous voulez comme place? Qu'est-ce que vous voulez que la Palestine aille? Non, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre la question.
Elle ne maîtrise rien de ce. Et là, c'est tout ce qu'on a à comprendre.
Moi, je n'ai rien.
Vous m'étonnez.
Absolument rien.
Je pense qu'elle avait peur de dire une bêtise et qu'elle a préféré botter en touche.
Parce qu'elle n'était pas sûre de son fait. Pour quelqu'un qui met autant de force et d'énergie à défendre cette cause, légitime ou pas par ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le débat du soir. C'était vraiment une question de connaissance géographique. 23h.
Supposer que vous ayez raison, elle aurait pu dire il y a un débat politique sur les frontières de la police.
Oui,
on aurait compris qu'elle connaissait. Que là, elle ne sait pas.
Non, mais elle ne veut pas répondre.
Des scènes d'une violence pure et insupportable ce matin, dès 7h30 devant un lycée de Cachan. On vous en parle dans une poignée de secondes, juste après le rappel des titres de Maureen Vidal.
Trois adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été interpellés en France, soupçonnés d'avoir été en contact avec les quatre hommes arrêtés dimanche en Belgique pour un projet d'attentat à Bruxelles. Les trois mineurs ne sont pas impliqués directement dans le projet d'attentat, mais ils adhéraient aux thèses islamistes. Ils auraient été en lien virtuel avec les hommes arrêtés en Belgique. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Des perquisitions ont eu lieu cet après-midi à l'hôtel de ville de Paris dans le cadre d'une enquête du parquet national financier sur les conditions du voyage de la mère Anne Hidalgo en octobre 2023 à Tahiti. L'enquête a été ouverte en novembre pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. La mairie de Paris a indiqué avoir d'ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs au déplacement. Enfin, en football, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant la Real Sociedad 2-1. Les Parisiens ont pu compter sur l'efficacité de leur attaquant vedette Kylian Mbappé, d'abord à la 15e minute sur ce bel enchaînement, puis au retour des vestiaires sur ce magnifique service de Ken Gilney. Enfin, deux rencontres, les Basques sauvent l'honneur par Merino. Le PSG rejoindra les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2022.
Et ben voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, cher Maureen Vidal. Je voulais vous épargner, parce qu'en plus, on l'a montré rapidement hier, la photo publiée par le groupe Les Insoumis après cette validation historique de l'avortement dans la Constitution. Mais parce que le petit-fils de Simone Veil a répondu aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer sa réaction. Donc la France Insoumise et Mathilde Panot qui se sont mis en scène sur cette photo à hauteur historique de Simone Veil. Ce à quoi le petit-fils de Madame Veil a répondu ou a dit aujourd'hui à ce rapport. Rapprochement, quelle indignité. Il fallait oser. Un petit mot, hein, je vous dis, on l'a vu hier. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus?
Moi, je suis horrifié.
Horrifié.
De toute cette opération, depuis des mois, le vrai combat, il a eu lieu il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Ouais, j'ai été suffisamment longtemps
il a eu lieu à l'Assemblée
pour savoir que la gauche n'a jamais pardonné à la droite d'avoir fait cette loi. En 1975.
Monsieur Pierre Lelouch, je vous plaisante.
Attendez, c'est pas un débat sur depuis... 50 ans de lutte pour le droit à l'avortement. C'est juste Madame Panot qui se met à hauteur de Simone Veil.
D'aller présenter une affaire qui est close avec 90% des Français qui sont pour l'avortement. L'affaire est, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Et d'aller présenter cette dame à l'équivalent du courage qu'il a fallu à Simone Veil il y a 50 ans pour faire cette loi, mais c'est une escroquerie.
Et de tout ce qu'elle a subi.
C'est indigne. C'est indigne.
J'ajoute juste que...
Bon, je voulais juste remontrer la photo.
J'ajoute juste que cette loi a été votée grâce à la gauche en 1975, puisque la majorité de droite y était hostile. C'était par rapport à la réflexion de Pierre Lelouch.
On en revient à ce qu'on disait.
Si ce n'était pas pour Sylvain Veil et Giscard d'Estaing, il n'y aurait pas eu de loi.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En réalité, c'est que...
Et Alexandre Mirand, en 1924,
il était
de gauche. La criminalisation de l'avortement en France est le fait d'un gouvernement de gauche en 1924. Je vous renvoie à Alexandre Mirand.
Très bien.
C'est pas à moi qu'il faut me la
très
faire.
Bien, sauf que la question, là, c'est vraiment un commentaire sur Mathilde Panot qui se met à hauteur de Simone Veil.
La paternité de l'avortement en France.
Vous ferez ce petit
gauche,
débat entre vous plus tard, si vous le voulez bien.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Philippe.
Je vais y arriver.
Allez-y.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que quand on est ignorant, on ose tout en réalité. Parce que si Mathilde...
Je vais pas citer Audiard. Hein.
Non, mais si Mathilde Panot avait conscience de ce qu'a subi Simone Veil, des attaques, des insultes, des menaces de mort qu'elle a reçues, de tout ce qu'elle a enduré, et antisémite, n'en parlons pas, on l'a ramenée au four crématoire, etc. Ah bah oui. Elle a vécu un enfer, elle a fait preuve d'un courage absolument incroyable, et là, Mathilde Panot ose se comparer à elle. Donc oui, je crois que quand on est ignorant, parce que si elle avait conscience de tout cela, elle n'aurait jamais produit une telle affiche.
Des scènes d'une violence pure. Je vous le disais ce matin, devant le lycée polyvalent de Cachan dans le Val-de-Marne, environ 200 personnes, 200 jeunes, ont bloqué l'entrée en mettant le feu à des poubelles avant de s'attaquer aux forces de l'ordre. Plusieurs personnes et plusieurs blessés, surtout du côté de la police et des élèves, bien sûr, qu'on peut imaginer, pour ceux qui n'ont pas participé à ces violences, traumatisés. Le reportage sur place aujourd'hui.
Des dizaines de jeunes, dont certains cagoulés, attaquent puis renversent un véhicule. Quelques minutes plus tard, certains n'hésitent pas à jeter des projectiles sur les pompiers et les forces de l'ordre. Une situation qui amuse l'auteur de la vidéo et les personnes qui l'interrogent.
Il fait pas du baseball, lui.
On pèse l'État français, nique sa mère.
Avant que la police n'arrive sur les lieux, le feu avait été mis à des poubelles devant le lycée polyvalent de Cachan.
Ça nous empêchait de rentrer dans le lycée, on ne pouvait pas rentrer, il y avait une énorme foule autour de la porte. Et puis après, il y a eu énormément d'agitation.
Selon certains élèves, ce blocage avait pour objectif de dénoncer l'insalubrité et les conditions d'enseignement dans l'établissement. Pour alerter sur la vétusté des lieux, des professeurs avaient d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait la semaine dernière.
On reste toujours inquiet et très concerné par l'état de notre établissement, dans lequel des dalles de plafond tombent, dans lequel on a des fuites.
La maire de la ville appelle la région Île-de-France à réagir.
Il y a effectivement une urgence et une nécessité à ce que des travaux soient conduits. J'ai relancé plusieurs fois la région pour avoir des éléments. Il ne s'est pas passé grand-chose.
Au total, 2 policiers ont été blessés. Un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour rébellion.
Gabriel Cluzel, jusqu'à 250 émeutiers recensés à un moment. C'était une scène de guerre devant un lycée en région parisienne à 7h30 du matin.
Moi, je suis un peu affligée par les réactions, là, pardonnez-moi, mais la mère qui dit, alors qu'il y a eu des émeutes, des policiers pris à partie, enfin, ça a été, comme vous dites, des scènes de guerre, elle dit qu'il faut aller faire la réfection du lycée, mais on...
C'est un sujet aussi, hein, dans ce lycée, et les profs ont émis un droit de réserve.
C'est pas le sujet, non. Nous sommes d'accord. Il faut savoir que ce lycée, il y avait déjà eu des émeutes en 2017, hein, il y avait même une jeune fille, je crois, qui avait perdu un œil, alors c'était autour de... C'était parti de l'esclavage en Libye. Alors, je ne vois pas très bien quel était à propos de l'affaire. Puis ensuite, sur les violences policières. Moi, il se trouve que cet après-midi, j'ai eu quelqu'un qui était étudiant à l'ENS Cachan, qui jusqu'à 2020 était à côté. Maintenant, ça s'appelle l'ENS Saclay, parce que c'est sur le plateau de Saclay. Ça a déménagé. Et ils étaient tout à fait mitoyens de ce lycée. Et il m'a dit que c'était un enfer. Nous n'osions même pas aller à la laverie mettre notre linge parce que il y avait une insécurité telle autour de ce lycée que vraiment c'était devenu invivable. Il faut se rendre compte de ce qu'est cet établissement. Alors je crois qu'en 2017, il y avait d'autres lycées qui avaient rejoint, l'un de Crémin-Bicêtre, l'autre de Fresnes, l'autre de Chevilly-Larue. Et donc, des années après, nous en sommes au même point et la mère nous dit il va falloir refaire les revêtements dans le lycée, si vous voulez. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles? Moi, quand je vois notre président veut engager la guerre contre la Russie, j'ai envie de dire, il va falloir commencer peut-être par réussir à mettre au pas des lycéens, parce que sinon, ça ne va pas être très probant. Hein.
Kevin, vous qui êtes prof d'histoire géo en région parisienne, il y a 20 ans, on ne voyait pas ça, surtout pour pas grand-chose. Non, c'est important que ce lycée soit conforme et que ces jeunes puissent étudier dans les meilleures conditions. Mais l'amiante, là, pour le coup, ce matin, ce n'est qu'un prétexte pour s'adonner à la violence la plus pure.
On a assisté ce matin à une manifestation d'une sécession qu'on avait déjà connue au moment des émeutes. Quand vous écoutez ces jeunes,
les émeutes de juin,
ils en appellent à défier la police, ils la défient directement, et surtout, ils ont des propos anti-français et anti-républicain. Et ce genre de propos, quand vous allez en banlieue dans certains établissements, vous l'entendez assez fréquemment. J'aime pas la France, nique la France, nique la police. Ce sont des choses qui sont complètement banalisées dans les banlieues. Ce qui change un peu, c'est vraiment l'excès de violence physique, parce que là, on a quand même une émeute, en fait, qui a eu lieu ce matin. Et moi, Gabrielle me fait quand même rire. Elle découvre comme ça, finalement, ce qu'est la gauche bien-pensante, le fait de nier tous les problèmes. Vous voyez cette mère, ou vous voyez ce professeur qui nous raconte que la cause serait une cause encore sociale, serait le délabrement de l'établissement, mais ces gens n'ont pas compris que ce qui se passe dans ce pays, c'est un sentiment anti-français de plus en plus fréquent. Et regardez ce qu'il y a eu encore récemment avec ce proviseur dans un lycée parisien qui a été accusé d'islamophobie. C'est la même chose. On s'en prend au symbole de la République, on s'en prend au personnel de l'éducation nationale, on s'en prend à tout ce qui représente la France. Et il faut le dire, parce que le fait de nier tous ces problèmes, ça va bien 5 minutes.
Denis Jacob, bonsoir. Merci d'être avec nous par vidéo. Secrétaire général du syndicat Alternatif Police. Alors que ces émeutes ont duré presque 3 heures, il y a certains élèves qui étaient déjà en cours et qu'on imagine bien sûr traumatisés, on le disait tout à l'heure. On a franchi une étape encore dans la violence juvénile incontrôlée aujourd'hui.
Ah mais on n'a pas franchi l'étape aujourd'hui, elle est déjà franchie depuis longtemps, l'étape. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Cachan lève plusieurs problèmes. Tout d'abord, le refus de l'autorité de l'État, c'est clair, net, c'était mis en évidence dans la vidéo que vous venez de passer. On s'en prend aux pompiers, on s'en prend à la police nationale, à la police municipale, on s'en prend même aux employés de la BRI. Le deuxième problème, c'est qu'on a des personnes, des élus, des professeurs qui argumentent, qui essayent d'argumenter ce qui s'est passé comme étant un peu la politique de l'excuse en disant on a un lycée délabré, donc les jeunes expriment leur mécontentement. En France, ce n'est pas la loi de la rue. C'est la loi de l'État. Et il y a.
Et je ne suis pas sûr, pardon de vous couper, mais que tous les jeunes qui s'attaquent à la police ou qui dégradent le lycée étaient en effet des élèves de ce lycée.
C'est peu probable.
Non, tout à fait. Mais là, malheureusement, faire le tri parmi tous ces émeutiers, ça va être compliqué. Toujours est-il qu'on a un problème dans notre pays avec la délinquance des mineurs. Ça fait des années qu'on en parle. On avait mis en avant la problématique de l'ordonnance de 1945 qui n'était plus en conformité avec la réalité de notre jeunesse. Il y a eu des modifications apportées il y a quelques années maintenant, mais le problème reste entier. Et puis se pose la question aussi de la question de l'éducation de ces jeunes, de l'autorité parentale. Et donc, il faut déjà voir ce qu'on peut apporter en matière de sécurité par rapport à ces établissements scolaires, parce que ce qui se passe dans la rue se passe aussi dans les établissements scolaires. La délinquance des mineurs, elle n'est pas qu'à l'extérieur. Donc comment travailler avec le corps enseignant et la police pour essayer d'apporter des solutions qui conviennent à tout le monde, sans toucher à la sanctuarisation des établissements. Et puis, il va falloir, une fois de plus, réaffirmer l'autorité de l'État. Ça fait des mois que je le dis. D'ailleurs, le chef de l'État, le Premier ministre, avait annoncé un choc d'autorité. J'aimerais bien le voir arriver. On a des opérations Place Nette pour la lutte contre les stupéfiants, donc c'est un premier choc d'autorité. Mais face à ces émeutiers par dizaines et par centaines, il va bien falloir apporter des réponses. Ça peut être des sanctions éducatives, des sanctions pénales, mais il va falloir faire preuve de fermeté.
Je me permets d'ailleurs, Denis Jacob, parce que alors il y a eu deux policiers blessés. D'ailleurs, on a vu la blessure de l'un de vos collègues touché au bras. On a pu se munir également se faire parvenir la radio, d'ailleurs, grâce à vous, Amaury, on voit que oui, il semblerait qu'il y ait vraiment une fracture au niveau de l'os du bras que l'on voit cerclé de rouge. Ce que je note également, Denis Jacob, c'est que sur 250 émeutiers recensés environ, il y a un jeune qui a été interpellé. C'est un petit peu maigre tout de même, non?
Vous savez, tout le monde est pris un peu au dépourvu dans cette affaire. Et c'est d'abord les policiers municipaux qui interviennent.
Ça a duré 3 heures, pardon. Je ne suis pas en train de critiquer l'action de la police. Je n'étais pas sur place. Mais il y a eu 3 heures d'émeute et un interpellé.
Je ne le prends pas comme tel. Mais il faut aussi recontextualiser par rapport à tout ce que nous avons connu l'année dernière. Qu'aurait-on dit si on avait envoyé une demi-compagnie de CRS monter à la charge, interpeller tout le monde? On aurait crié à quoi? Aux violences policières, à une faute de la police,
N'importe quoi.
Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'était les consignes?
Non. Loin de moi de dire qu'il y a eu des consignes de ne pas intervenir, mais vous imaginez bien que intervenir à proximité d'un établissement scolaire avec des élèves, des lycéens qui veulent venir à l'école, pris entre le marteau et l'enclume avec ces émeutiers, c'est particulièrement compliqué que d'intervenir et d'aller interpeller tout le monde.
On laisse brûler, quoi.
Alors, Amaury Bucaud, qui est avec nous sur toutes les questions de police-justice, qui veut intervenir.
Non, mais j'ai eu justement des précisions sur ce point précis. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la police s'est retrouvée complètement dépassée. Il faut quand même savoir que pour la circonscription de Kremlin-Bicêtre, qui regroupe justement Cachan, mais aussi Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Gentil et Arcueil, donc 5 villes avec plus de 180 000 habitants, vous avez la journée une seule voiture de police secours qui se promène entre les 5 villes.
C'est pas...
Donc là, il y a une voiture police secours qui s'est d'abord rendue sur place. Ensuite, vous avez deux brigades de contact qui sont arrivées. Mais si vous voulez, petit à petit, les forces de l'ordre se sont rendues sur place, mais au compte-gouttes. Et puis il y a eu des renforts venus d'autres villes, etc. Mais ce que m'a dit un policier que j'ai eu, un policier local, il m'a dit, nous avons eu ordre, effectivement, de ne pas intervenir, de laisser faire les émeutiers parce que nous étions, a priori, en sous-nombre et que finalement, la hiérarchie estimait qu'il fallait mieux que les émeutiers s'en prennent à des voitures, etc., que d'exposer les forces de police qui n'étaient pas assez nombreuses. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le problème de l'image. C'est-à-dire que si vous dites à quelques policiers d'y aller, forcément, ils vont devoir être un peu costauds parce qu'il y a 200 lycéens en face d'eux qui sont quand même assez déterminés. Et donc, il y aurait peut-être eu des images. Et effectivement, on préfère laisser faire dans ces cas-là que d'exposer un trop faible nombre de policiers.
Alors, ça fait beaucoup réagir le plateau. Chacun apportera un petit commentaire. Je voudrais juste, Denis Jacob, puisque vous êtes avec nous sur ce sujet précisément, que vous apportiez un rapide commentaire à ce que vous venez d'entendre.
Je pense que le journaliste sur le plateau, enfin, je n'ai pas eu l'occasion de voir son nom, excusez-moi.
C'est Amaury Bucaud.
Mais Oui, vous avez entièrement raison. Vous avez très bien résumé la situation. Ce n'est pas propre à la circonscription de Cachan et des communes environnantes. C'est la cartographie de la police générale partout en France. C'est-à-dire que les primo intervenants de la police nationale, c'est le service général et c'est les unités d'appui et de soutien comme la BST. Et si on est face à un flot de violence trop important, eh bien, il faut dépêcher sur place les CRS. Mais dans des circonscriptions, que ce soit en Ile-de-France ou que ce soit en province, très régulièrement, vous n'avez qu'une patrouille de police générale, ce qu'on appelle la police secours, une à deux patrouilles, puis ensuite, vous avez une ou deux unités de renfort et de soutien. Et puis après, bah, il faut faire appel aux communes qui sont autour pour les renforts, et si vraiment il y a une déferlante de violence, eh bien là, on doit dépêcher les CRS sur place, et ça demande un petit peu de temps pour qu'ils arrivent, ouais. Et puis, vous venez de donner l'argumentation que je n'avais pas, qui sera à vérifier, puisque c'est quand même un témoignage anonyme, mais je l'ai dit, il y a certainement eu aussi la possibilité de consigne, de faire très attention dans l'intervention, pour ne pas raviver les tensions que nous avons connues l'été dernier.
Pas de vague, c'est ce qui semble quand même être le leitmotiv de cette matinée, et le comportement des responsables qui donnent les ordres, parce que ce n'est pas les policiers qui sont sur le terrain qui choisissent ou non d'intervenir. Alors ça fait réagir tout le monde. Si vous le voulez bien, on essaie d'être concis, parce que voilà, si chacun prend trop de temps, on ne va pas s'en sortir.
Ce qu'il y a quand même d'incroyable, c'est qu'une bande de gamins est capable de désorganiser tout un secteur géographique et de mettre à mal la police. Et là, ce sont des policiers. Imaginez les habitants de ces quartiers qui subissent ces gamins tous les jours, qui ne peuvent pas, en effet, intervenir quand ils se font racketter, quand il y a du trafic de drogue, quand il y a des violences. C'est le quotidien de beaucoup de gens. Et Philippe, je sais ce que vous allez dire, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Denis Jacob, si on avait fait intervenir la police, la gauche bien pensante serait montée au créneau, un bon nombre de professeurs auraient fait exactement la même chose pour dire qu'on aurait violenté la jeunesse et que la réponse était beaucoup trop forte à côté d'un établissement scolaire. La vérité, c'est qu'on paye aujourd'hui cette idéologie dont sont victimes les professeurs eux-mêmes. Moi, j'en ai marre d'avoir ces professeurs de gauche qui nous racontent qu'ils sont toujours dans la câlinothérapie, qu'il ne faut absolument pas sévir, la culture de l'excuse, sauf qu'aujourd'hui, ceux qui commencent à se barricader dans leurs établissements scolaires, ce sont ces mêmes profs-là. Donc il faut peut-être passer à autre chose et entrevoir des sanctions lourdes.
Gabriel, Kevin, Philippe, et comme ça, vous aurez les deux.
Tu peux parler quand même.
Oui, c'est pour ça que je dis, je vais donner la parole à Gabriel, parce que je sais que vous aurez aussi un contre-argumentaire, comme ça, vous ferez d'une pierre deux coups.
Non, mais on constate que la police s'auto-censure, ce qui est quand même assez gravissime. C'est-à-dire qu'elle dit d'elle-même, bah, écoutez, on ne peut pas intervenir parce que...
Elle attend les ordres, effectivement.
Oui, elle attend des ordres qui ne viennent pas.
Et en même temps, si on essaie de réfléchir vraiment à cette décision, est-ce qu'on est prêt à voir des scènes comme ça d'affrontement entre des policiers et des adolescents devant
un quartier brûlé?
Je ne dis pas ça, j'essaie de comprendre.
Avoir des policiers qui remettent des ordres dans le quartier plutôt que de voir ce quartier brûlé sans contrôle. En réalité, on voit bien que c'est le magistère moral de la gauche qui dirige ce pays. Donc
vous
on
dites
a des
n'importe
lycéens.
Quoi. Excusez-moi, à un moment donné, vous donnez, dites n'importe quoi.
Vous n'êtes pas d'accord. Mais
c'est pas le magistère moral de la gauche.
C'est à vous.
Franchement, c'est insupportable de voir que sur un dysfonctionnement policier.
Non, c'est pas un dysfonctionnement, ils ont répondu aux ordres.
Attendez, je commence juste à parler.
Oui, mais parlez pas de dysfonctionnement.
Bah, si, je peux en parler. C'est un dysfonctionnement de l'organisation policière.
Vous ne pouvez pas savoir non plus.
Donc, c'est un dysfonctionnement de l'organisation policière. Donc il n'y a pas eu les conditions de l'organisation policière pour intervenir dans cette affaire où évidemment il y aurait dû avoir intervention et sanctions très sévères. C'est vous-même qui l'avez dit, Julien, il n'y a eu qu'un seul interpellé. Donc laissez la gauche tranquille, arrêtez de toujours vous réfugier derrière la gauche, c'est vraiment une facilité totalement démagogique. Parce que je ne vois pas le rapport.
Alors Philippe,
je termine mon propos. Je ne vois pas le rapport entre la gauche et le problème d'organisation de la police. Vous fuyez toujours dans des problèmes idéologiques qui n'ont rigoureusement rien à voir avec le cas d'espèce.
Pourquoi est-ce que des ordres sont donnés
excusez-moi,
à la police.
Mais comme
pourquoi
je suis le seul sur ce plateau,
il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je vais vous
j'ai
relancer.
Tendance à m'énerver un
regardez,
peu.
Je vous relance.
Parce que la petite musique de la gauche responsable de tout, c'est franchement gonflant. Franchement, c'est gonflant.
Allons un tout petit peu plus loin.
Et donc, bien entendu, Gérald Darmanin, c'est la gauche morale.
Allons un tout petit peu plus loin.
Vous dites n'importe quoi. Excusez-moi.
Ces quartiers. Donc, les conséquences de la gauche molle, je la vois tous les jours.
Mais la gauche molle, vous avez Gérald Darmanin et la gauche molle.
Vous voyez bien que les policiers ne sont pas en capacité.
C'est de la faute de la gauche. Les policiers
aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas.
Excusez-moi.
Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de choix. Il y a Denis Jacob qui est là, il y a Amaury qui a parlé à ce policier aujourd'hui. Ça vient d'en haut,
c'est
ne pas intervenir.
Le choix est lié à la capacité. C'est-à-dire
le choix n'est pas lié à l'image que ça pourrait renvoyer.
C'est les deux. C'est-à-dire que si la capacité est trop faible, vous estimez que les images qui vont découler des violences entre les deux vont être mauvaises et désastreuses.
Alors,
et
Denis donc Jacob qui veut répondre. Pierre Lelouch et Yohann Usain n'ont rien dit sur le sujet. Vous serez les suivants, messieurs. Denis Jacob, rapidement, si ça ne vous dérange pas.
Excusez-moi, moi ça me fait doucement sourire ce que j'entends. Malheureusement, la situation est quand même grave. C'est-à-dire que de toute façon, on serait intervenu, il y aurait des gamins blessés, il y aurait eu des violences policières. On n'intervient pas, ça brûle.
Mais lors des émeutes, monsieur,
c'est toujours de la faute de la police, que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, c'est notre faute. Je rappellerai quand même que nous sommes dans une société, depuis maintenant quelques décennies, où l'enfant est devenu intouchable. Prenons l'exemple des établissements scolaires. Quand un gamin est puni, que font les parents ?
Excusez-moi.
Ils viennent s'en prendre aux professeurs.
C'est un concret.
Ils viennent s'en prendre aux professeurs. Dès que les parents, les professeurs commencent à reprocher un manque d'investissement, un manque de travail au gamin, qu'on le punit, qu'on lui demande de faire des devoirs à la maison parce qu'il n'a pas été assidu, la première chose que font les parents, c'est de venir demander des explications à des professeurs. Et les exemples ne manquent pas où les parents viennent s'en prendre physiquement aux enseignants. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même aussi se pencher sur la question de la défaillance de l'autorité parentale et de l'éducation qui est donnée à ces gamins.
Pierre Lelouch et Yohann Usain qui n'ont rien dit. Juste avant, tiens, Thomas Leroy qui est en régie, si on peut entendre ces jeunes lycéens qu'on devait entendre il y a quelques minutes, qui justifiaient d'une certaine manière, donc interviewés par nos équipes devant le lycée ce matin, qui justifiaient, il y a des problèmes d'amiante, donc ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Écoutez-les.
Ce qui a été touché, c'est que du matériel. Ils n'ont pas touché les personnes, personne n'a été blessé. C'est la police qui a blessé les gens. Il n'y a que du matériel, par exemple, brûler des poubelles, tout ça. Mais parce qu'on est obligé de faire des choses comme ça pour qu'on soit entendu. C'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. Moi, ça veut dire que je vais rester dans ce lycée. Si c'est, j'arrive en cours, on me dit qu'il y a de l'amiante. Enfin, je suis là, je tousse et tout.
Nos parents s'inquiètent aussi pour nous, parce que j'en ai parlé avec mon père et puis ils s'inquiétaient énormément. Il avait peur pour moi et pour ma santé, surtout quand il a entendu qu'il y avait des possibilités d'amiante dans le lycée. Il s'est beaucoup inquiété pour moi.
Ah oui, donc il y a de l'amiante, donc on détruit le lycée.
C'est dingue.
Pierre et Johan.
Moi, je suis consterné par tout ça, profondément consterné comme citoyen. J'entends le président de la République nous promettre un choc d'autorité. On voit que c'est vraiment la chienlit. Il suffit de prétexter n'importe quoi pour organiser une émeute de ce genre. J'entends des enfants dire « nique la France, nique la police ». Ils l'entendent bien chez eux, ça. Hein, ils l'ont pas inventé.
Ou sur les réseaux, ou le fait d'entraînement avec d'autres jeunes. Je ne sais pas s'ils l'entendent à la maison.
Il y a des choses simples. Si un jeune n'aime pas la France et n'aime pas la République, il a qu'à s'en aller. Et les parents avec. Et je crois qu'il faut être absolument clair maintenant. Ils veulent un choc d'autorité. Il faut changer la loi sur l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Il faut que la justice passe et qu'elle passe immédiatement. Il faut que si les parents laissent faire une chienlit pareille, ils soient eux-mêmes sanctionnés.
Moi, je préférerais, plutôt que de dégager ces gens-là, je préférerais qu'on trouve un moyen de les faire adhérer à notre récit national. Et d'essayer de comprendre pourquoi ces jeunes-là rejettent à ce point-là le pays qui les a vus grandir et qui les élève depuis leur naissance. Pour la grande majorité d'entre eux, je l'imagine. Yohann Usain.
Oui. Mais bon. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une désorganisation de la police dans ce cas précis, mais si c'est le cas, la police est très désorganisée partout sur le territoire, parce que c'est quand même
ou manque de moyens.
Des scènes auxquelles on assiste régulièrement et personne n'est surpris en réalité de ce qui arrive là. C'est-à-dire que ça n'est pas la première fois et ça ne sera hélas pas la dernière. Et on entend parler effectivement de choc d'autorité, de fermeté. On nous dit notre main ne tremblera pas, nous ne laisserons rien passer. Mais si vous voulez, ça fait 20 ans, si ce n'est plus, qu'on est confronté au même problème qui ne fait que s'amplifier en réalité. La campagne de 2002, je vous rappelle qu'elle s'est jouée sur le thème de l'insécurité. Déjà à cette époque-là, on disait la France n'est pas un pays sûr. Déjà à cette époque-là, on avait des dirigeants politiques qui nous disaient les choses vont changer. On a pris conscience du problème, on va effectivement agir en conséquence. Ça fait 22 ans. Et les choses n'ont pas changé, elles se sont aggravées. Donc on voit bien qu'il faut effectivement changer de logiciel, mais changer radicalement de logiciel. Parce que ce ne sont pas avec les mesurettes qu'on nous annonce aujourd'hui que nous allons régler un problème qui est devenu un problème de sécurité globale dans le pays.
À mourir rapidement avant que Gabriel ne dise un dernier mot.
Non mais Julien, je suis d'accord avec vous. On peut se dire effectivement qu'il faut les faire adhérer à la République, etc. D'ailleurs on a essayé, c'est ce que Emmanuel Macron veut renforcer, c'est que du coup on s'est dit avec notamment la loi SRU, on va faire plus de mixité sociale et on va prendre les populations dans les banlieues et les mettre un peu partout en France. Mais résultat, ce qui s'est passé, c'est que les banlieues de 2023 étaient beaucoup plus étendues que celles de 2005. Donc on voit bien qu'au lieu d'arriver finalement à intégrer des jeunes, on sème la zizanie un peu partout en France en la répandant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui va être très intéressant de voir, c'est que ce jeune de 17 ans qui a été interpellé, avait déjà commis
des violences. Il n'a pas eu de chance, lui, hein, parce qu'il y a 249 qui sont partis à travers les mailles.
Il était connu des services de police pour avoir déjà commis des violences sur une personne, enfin un policier, en gros. Bon. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si la justice, là encore, comme c'est un mineur, effectivement, lui va lui donner une troisième ou quatrième chance, ou si, là, la réponse va être sévère.
On connaît la réponse. Gabriel, très vite, avant que...
Je voulais simplement revenir sur les propos de cet étudiant qui avait vécu à côté du lycée de Cachan, cet étudiant de l'ENS, et qui me disait, il y a clairement une hybridation entre une détestation de la France, enfin, toute cette rhétorique alimentée par l'ultra-gauche, et puis tout un vivier de délinquants aussi. Il y avait beaucoup de trafic de drogue, alors plus ou moins artisanaux, entre guillemets, mais bien réel, c'est cette hybridation qu'on retrouve dans de nombreuses banlieues. Moi, ce que je remarque, c'est que pendant ces dernières semaines, on nous a expliqué que le problème, c'était Stan. Vous vous souvenez quand on faisait tout un procès au lycée Stanislas. Et pendant ce temps, voilà ce qui se passe au lycée de Cachan. Donc à un moment, il faudra qu'on parle vraiment des vrais problèmes qui minent notre société.
Philippe, il me reste 50 secondes avant le JT.
Un chiffre que cite et répète Alain Bauer, qui est un des meilleurs spécialistes de l'organisation policière, qui ne fait pas partie de la gauche morale. 40% des effectifs policiers sont présents quand il y a 4% des infractions ou des crimes. Et 40% des crimes et des délits ont lieu, notamment la nuit, quand 4% simplement des effectifs policiers sont présents sur le terrain. C'est Alain Bauer qui répète ce chiffre, et donc je répète qu'il y a un problème d'organisation de la police, de sa présence sur le territoire.
Denis Jacob, si vous le voulez bien, on va marquer juste une petite pause pour le rappel des titres. Si vous êtes d'accord, je vous conserve encore 5-6 minutes, parce que je voudrais que vous réagissiez également à ce qui s'est passé rue Pavée, en plein Paris, où là encore, on reste dans ce contexte de violence autour des établissements scolaires, quels qu'ils soient, que ce soit en banlieue parisienne ou au plein cœur de la capitale. Amaury Bucco va nous montrer les images, nous raconter ce qui s'est passé. Et là encore, j'aimerais avoir votre opinion. Merci beaucoup de nous accorder encore quelques instants. On marque un point actuel, les 23h30. Maureen Vidal.
En déplacement à Prague, Emmanuel Macron a assumé ses propos controversés concernant l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Le président a jugé nécessaire de bousculer les alliés de l'Ukraine, qu'il a exhorté à ne pas être lâche face à une Russie inarrêtable, selon ses mots. Le procès de Roman Polanski, jugé pour diffamation, s'est ouvert à Paris après avoir qualifié d'odieux mensonges les accusations d'agression sexuelle lancées contre lui par l'actrice Charlotte Lewis. Le jugement aura lieu le 14 mai prochain. Le cinéaste de 90 ans était absent et était représenté par ses avocats. L'actrice britannique a, elle, fait le déplacement pour assister au procès. Enfin, le défi le plus important pour le ministère de l'Intérieur, la sécurisation des Jeux Olympiques devant la commission des lois du Sénat. Gérald Darmanin a déclaré être confiant des moyens mis en place pour la sécurité à Paris cet été.
Merci beaucoup, Maureen Vidal. Maureen Bucco, je voudrais qu'on on évoque donc cette violente agression qui a eu lieu en pleine rue à Paris hier, des coups de couteau et de marteau entre jeunes, sur un jeune en particulier par d'autres. Ça s'est passé donc dans les rues de la capitale, au centre de Paris. La scène a même été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Avant que vous ne donniez le détail, je voudrais qu'on regarde ça ensemble. Image très impressionnante pour ceux qui connaissent Paris. Oui, oui, on y va. Merci beaucoup. Pour ceux qui connaissent Paris, on est en plein cœur du 4e arrondissement. Du Marais, quartier historique de la capitale. Vous voyez ce mouvement de foule de jeunes au cœur de l'écran, au centre de l'écran. Vous voyez un qui tombe par terre, qui se faisait, en gros, hein, pour le dire trivialement, courser par les autres. Petite séquence de tabassage. Et puis vous en avez un autre avec un marteau qui va arriver également. C'est insupportable. Amaury, très simplement, expliquez-nous ce qui s'est passé avant qu'on en dise un mot avec Denis Jacob.
Oui, déjà, je pense que c'est très important de préciser quand même qu'on est effectivement en plein cœur de Paris, pas très loin de la Bastille, pas très loin aussi de Notre-Dame, donc un quartier très touristique où on imagine que ce genre de scène ne devrait pas arriver. Donc, en fait, la victime qu'on voit sur les images, c'est un adolescent de 16 ans qui est scolarisé au lycée Victor Hugo dans le 3e arrondissement de Paris. Il est effectivement pourchassé par une bande dans Paris. Il est effectivement rattrapé finalement au milieu de la rue. Il tombe, il est roué de coups et vous avez effectivement deux jeunes qui à ce moment-là reviennent vers lui et en fait, il se voit à la fois victime d'un coup de plusieurs coups de couteau, mais aussi de coups de marteau. Résultat, eh bien, il y a eu plusieurs plaies à la fesse, à l'abdomen et à la tête. C'est comme ça que les policiers l'ont trouvé en arrivant sur place. Alors, forcément, il a été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en urgence absolue, mais heureusement sans que le pronostic vital ne soit engagé. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale, qui est quand même un service d'investigation assez poussé. Donc, c'est vous dire si on prend, si vous voulez, cette affaire au sérieux. Et l'avantage, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient sur place, des témoins qui ont pu filmer la scène et donc qui ont pu remettre ces éléments aux enquêteurs. Là, ce que nous disait le parquet cet après-midi, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas eu d'interpellation, mais il faut comprendre que dans ce genre de fait, en général, on attend d'être sûr de pouvoir interpeller tout le monde en même temps pour qu'il n'y ait pas de concertation entre les suspects.
Et des infos sur la victime ?
Oui, alors justement, j'ai eu un des proches de la victime aujourd'hui au téléphone qui m'a dit que donc la victime était toujours hospitalisée, elle n'a pas pu sortir de l'hôpital, elle a quand même des plaies assez profondes, elle va mieux, elle a repris confiance. Ce que me disait ce proche, alors après c'est l'entourage familial, hein, je ne sais pas à quel point il connaît la victime, mais c'est qu'a priori c'est un jeune homme sans histoire, en tout cas qui jusqu'ici n'avait pas eu d'histoire. Il faut comprendre quand même que cette histoire, a priori elle s'inscrit dans le lycée
Victor Hugo et Charlemagne.
Exactement, le lycée, qui sont deux arrondissements à côté dans Paris.
Et qui sont pas très loin l'un de l'autre. Denis Jacob, on est encore dans le contexte scolaire, hein. C'est pour ça qu'on a joint ces deux sujets, des guerres de bandes, de lycée, sous des prétextes qu'on imagine souvent fallacieux, vraiment minimes, des regards, des vengeances. Il y a 30 ans, ça existait déjà, hein. D'ailleurs ça a toujours existé, sauf que ça se réglait à coups de poing, et là ça se règle à coups de marteau et à coups de couteau.
Oui, alors permettez-moi tout d'abord de rebondir sur la diffusion de cette vidéo et de rebondir sur les images de l'affaire de Cachan pour dire que ce n'est pas parce que la police n'est pas intervenue pour interpeller qu'il ne va pas y avoir un travail d'enquête et qu'il ne va pas y avoir d'interpellation derrière puisque toutes les images vont être épluchées. On réussit aujourd'hui à identifier les auteurs de par leur tenue vestimentaire, de par leur morphologie et je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, on aura des nouvelles sur ces deux affaires. L'ultraviolence, on a affaire à des jeunes qui baignent dans l'ultraviolence aujourd'hui en permanence et notamment l'ultraviolence très libéré, où il y a une vraie impunité des réseaux sociaux, avec celui qui va diffuser une vidéo où il aura commis une agression, et puis ça va être le concours de celui qui commettra l'agression la plus forte. Et puis il y a
sur les images de Cachan, pardon de vous couper, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison sur les images de Cachan. Vous avez la quasi-totalité de ces jeunes qui, en même temps qu'ils commettent leurs exactions, filment avec le téléphone également.
Oui, pour nous, c'est un outil précieux, puisque naturellement, c'est à celui qui diffusera le premier la vidéo pour se mettre en avant ou pour mettre les petits copains en avant. Et tout ça, c'est des vidéos qui vont être récupérées par les services enquêteurs pour pouvoir ensuite procéder à l'identification et les interpellations. Sur les problématiques de lycée, entre règlement de compte, entre lycées, je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un travail de fond entre corps enseignants, de police, pour savoir ce qu'on peut mettre en place comme outil qui permette de détecter des signaux faibles au sein même des établissements scolaires qui permettraient d'anticiper ou en tous les cas d'éviter au maximum d'avoir ce type de règlement de compte, de conflit, un peu comme deux quartiers sur fond de bandes rivales sur des trafics de stupéfiants. On a aujourd'hui des bandes rivales au sein des lycées. Je rappelle qu'il y a quelques mois, nous avions eu, je crois, c'était dans l'Essonne, une descente de jeunes d'un lycée qui venait régler ses comptes avec d'autres lycéens et l'un d'entre eux avait été malheureusement tué à coups de couteau. Donc c'est un vrai problème et ça remet une fois de plus au cœur du débat la problématique de la délinquance des mineurs qui n'est plus celle qu'on a connue il y a même 30 ans. Moi, j'étais sur le terrain il y a 30 ans. On avait effectivement des violences urbaines, on avait des affrontements entre bandes rivales, mais on n'en était pas au point où on voulait absolument attenter à la vie de l'autre. Donc aujourd'hui, on est dans un phénomène d'ultra-violence.
Merci beaucoup, Denis Jacob. Il y a en effet de quoi s'inquiéter et on suivra, comme les autres affaires, celle-ci, et si les interpellations et les enquêtes portent ses fruits, comme on dit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir commenté ces deux actualités assez parallèles avec nous ce soir dans Soir Info. Tout autre sujet, alors une polémique que j'ai pas vu venir, moi, personnellement, mais ça monte. Depuis hier, l'affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été dévoilée. On vous l'a montré d'ailleurs hier. Et elle a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont indignés de la disparition, vous le voyez, de la croix qui surplombe normalement dans la réalité le dôme des Invalides, situé sur la partie gauche de la fresque. Vous voyez que vous avez le réel à droite et le dessin donc à gauche. D'autres regrettent également globalement l'absence de couleur française, du drapeau français. Je voudrais vous faire lire avec moi 2-3 tweets avant d'en parler ensemble, d'avoir vos réactions les uns ou les autres. Je crois que c'est Mario Maréchal, Jordan Bardella, le premier tweet qu'on va afficher. Si Thomas Leroy peut l'envoyer parce que je l'ai pas, voilà. Le mépris pour notre drapeau tricolore, la cancellisation de notre patrimoine chrétien, le grand drame pardon de la France et d'avoir des dirigeants qui ne l'aiment pas. Le macronisme, c'est le grand effacement de notre identité. Marion Maréchal, pourquoi avoir effacé la croix au sommet du Dôme des Invalides sur l'affiche officielle des Jeux? Pourquoi un drapeau français? Quel intérêt d'organiser les Jeux en France si c'est pour cacher ce que nous sommes? Éric Ciotti pour LR, le Dôme des Invalides n'est pas celui d'un supermarché, mais celui d'une chapelle. En effaçant la croix à son sommet, l'affiche officielle des JO nie l'identité même de ce bâtiment, ainsi que l'histoire française. Scandaleux pour le patron des RL. Écoutez, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, avant de faire un tour de plateau.
C'était important pour Paris 2024 d'innover là aussi, d'être un peu en rupture par rapport à ce qui s'est fait sur les dernières éditions des Jeux. Ces affiches officielles, elles racontent l'histoire de Paris 2024. On voit du premier coup d'œil que ces Jeux sont dans la ville, c'est festif.
Ça manque pas d'une image forte, d'une image plus simple mais plus forte, quelque chose qui imprime la mémoire, qui imprime les esprits.
Moi je trouve justement que ce qui est très réussi, c'est une vision artistique des Jeux de Paris 2024 d'Hugo Gattoni, ce qui est très réussi c'est que du premier coup d'œil on retrouve cette ville-stade et c'est vraiment ce qui va rester dans l'histoire de ces Jeux, c'est des Jeux qui sont organisés au centre d'une ville, transformer, mettre du sport dans la ville, c'est vraiment l'enjeu de ces Jeux de Paris 2024.
Sacrilège, Pierre Lelouch.
Ah mais moi je trouve que l'idée de transformer la ville en terrain de sport est un véritable scandale.
Voilà. On parle de l'affiche, là.
Non, mais c'est pareil. Monsieur Estanguet, il est très content de ça. Mais moi, je trouve que c'est dingue. Que ça lui rapporte de l'argent à lui et au COJO, les images de Paris transformées en terrain de sport, c'est très bien.
C'est les Jeux
Olympiques. Mais pour la ville elle-même, elle mérite autre chose que ça. Mais il y a des stades. D'où vient que la ville devient un stade?
Mais ça fait rayonner la ville à travers ses monuments.
Mais ce monsieur est très content de ça, mais moi je suis contre. Je suis parisien.
Et l'affiche, elle vous plaît ou pas?
Paris, c'est l'histoire de France. C'est pas un terrain de sport. Quand je vois la place de la Concorde transformée en terrain de basket.
C'est magnifique. Mais vous imaginez les images que ça va produire à travers le monde?
Mais je m'en fous des images.
Ah bon, d'accord.
Mais l'image, c'est du pognon. Les images, c'est du pognon pour le COJO et pour les grands groupes qui viennent transformer la ville en terrain de sport. Mais moi, je suis horrifié
là,
de ça.
Un peu dur, je trouve.
Autant je respecte les sportifs. J'ai passionné de sport toute ma vie. Autant l'idée de transformer ma ville en terrain de sport, je trouve que c'est un affront à l'égard de l'histoire de Paris. Alors maintenant, on en est à supprimer, bien entendu, la croix au-dessus des Invalides. Pourquoi, d'ailleurs? Il faudrait une petite banane, ça aurait été parfait. Une glace, un McDo. Tout ça, c'est de la... Vous voyez pas que c'est que de la conso? Vous voyez pas que c'est... Mais regardez
non,
cette
dessin...
image. On dirait un cartoon qu'on distribue devant un McDo. Il manque plus que le hamburger. Je trouve ça honteux pour ma ville. Moi, je suis profondément patriote et profondément parisien.
Gabriel
Quand
Cusel.
Je vois ma ville transformée en ça, je me dis, mais c'est quoi ça?
Alors, on parle, là, Là, on n'évoque pas ensemble le concept des Jeux Olympiques à Paris, mais cette affiche, le fait que la croix soit a disparu dans le dessin et le fait que le drapeau français ne soit pas représenté, qui a donc.
Mais revenons à des choses simples. L'idée, c'était de représenter Paris. L'affiche, elle est censée représenter Paris.
Elle représente les Jeux.
Et elle efface le drapeau français, elle efface la croix en haut des Invalides. Alors, il explique, l'artiste, ah oui, mais moi, je n'ai pas pour ambition de représenter les choses telles qu'elles sont, avec tous les détails, mais comme par hasard, c'est ce détail-là, hein, le diable se cache dans les détails, qui a sauté. Et c'est quand même assez surprenant. En plus, l'image générale donne l'impression d'une culture mondialisée qui a mis lieu de ce que viennent chercher les touristes chez nous. Vous croyez qu'ils viennent voir quoi?
Œuvre,
Notre-Dame ou les pistes cyclables faites par Anne Hidalgo? Évidemment que Paris, c'est son histoire qui est imbriquée avec son histoire chrétienne. Hein. On peut tourner le problème dans tous les sens. Il y a une croix en haut du Dôme des Invalides et son drapeau est évidemment un symbole éminent. Je crois avoir vu qu'il y a la patrouille de France mais il y a pas, elle est quand même connue pour.
Alors ça, je vais vous dire, pour le coup, moi, c'est la seule chose dans une analyse très personnelle, c'est la seule chose que je regrette dans cette affiche, c'est qu'ils auraient pu mettre la fumée les fumigènes de la patrouille de France
en
bleu blanc rouge. Ouais. Mais l'absence de drapeau tricolore ne doit
ça
rien au hasard.
Que quoi, ça pourrait être Dubaï, ça pourrait.
Vous reconnaissez le Grand Palais, vous reconnaissez la Tour Eiffel, vous reconnaissez les Invalides, vous reconnaissez le Trocadéro, vous reconnaissez l'Arc de Triomphe. Arrêtez, vous reconnaissez le port de Marseille, vous reconnaissez la Madeleine de
Disney World.
Je vais juste finir. L'absence de drapeau ne doit rien au hasard. Résulte de réalité Paris, de considération sportive conforme au code des Jeux. Le drapeau japonais ne figurait pas sur l'affiche des Jeux de Tokyo. Pas plus que la bannière brésilienne n'apparaissait sur celle des Jeux de Rio. Oui. Même chose pour les Jeux de Londres 4 ans plus tôt. Ça s'appelle l'universalisme. L'article 50 de la Charte des Jeux Olympiques. L'article 50 de la Charte des Jeux Olympiques. Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée.
Il y a 139 églises ou chapelles à Paris. S'il faut toutes les invisibiliser pour les Jeux Olympiques, ça va être compliqué.
On parle de l'affiche.
Ça veut dire qu'il ne fallait pas les
mais
faire.
Mais on parle de l'affiche des Jeux.
Ah oui, c'est l'affiche.
Julien, c'est pas une carte postale de Paris, c'est l'affiche des Jeux Olympiques.
Mais c'est vrai qu'il croit, c'est affreusement
choquant. C'est pas ce que je dis.
Bah si, c'est ce que vous avez
dit. C'est la trêve olympique.
Je m'en fous complètement de cette affiche. Je n'ai pas envie d'entrer dans le cerveau de l'artiste. Mais pourquoi ça fait polémique? Parce qu'on est en France dans un contexte. C'est-à-dire qu'on renie notre identité. Dès qu'on parle des racines chrétiennes de la France, tout de suite, on est assimilé à un horrible facho ou à un horrible réactionnaire. Dès qu'on met en avant le drapeau français, c'est exactement la même chose. Nous sommes l'un des seuls pays où, quand on arbore le drapeau français, tout de suite, on se fait traiter de facho. Et regardez dans le quotidien. Même, moi, je vois là, les vacances. On parle plus de vacances de Noël, on parle de vacances d'hiver. On parle plus de marché de Noël, on parle de marché d'hiver. C'est exactement la même chose. On a honte de nos racines.
On a honte
de ce que nous sommes.
Moins fort, Kevin.
Je vous ai mis par rapport à tout à l'heure, vous étiez sorti de mon.
J'arriverai jamais à monter dans les aigus. C'est un travail de longue haleine que je ne
fais pas. Arrêtez, Johan.
Non, mais ne vous énervez pas. Cette affiche respecte le cahier des charges du CIO. C'est tout. Le drapeau ne doit pas apparaître et il ne doit y avoir aucun signe religieux. Donc cette affiche, elle ne fait que respecter les règles du CIO. Si on ne voulait pas respecter ces règles, il ne fallait pas postuler pour les Jeux Olympiques. Mais il n'est pas autorisé sur les affiches des JO de mettre le drapeau ou un signe religieux. Point. Il n'y a plus de débat, en fait.
Je ne vous ai pas entendu en 1981, lorsque le futur président de la République, François Mitterrand...
Johan, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que la première réaction...
Regardez, Gabriel.
Pardon, non, mais moi aussi, bien sûr, mais tout le monde en a parlé à l'époque, vous étiez trop jeune.
C'est vrai.
Moi, j'étais déjà une femme mûre, pour ainsi dire.
C'est vrai.
Non, mais cette affiche, elle est connue. Il avait déjà gommé à l'époque
la croix sur les clochers.
Donc, ce sont les héritiers de François Mitterrand, on peut le dire. Mais là où je ne crois pas du tout votre démonstration, Johan, c'est quand on pose...
C'est pas ma démonstration.
Pardon. Mais ça, c'est une construction faite pour rattraper le coup. Parce que l'artiste, regardez ce qu'on lui... On lui a posé la question. On lui a dit, pourquoi vous n'avez pas mis de croix en haut? Il n'a pas dit, c'est pour obéir au cahier des charges des Jeux Olympiques, etc. Il a dit, oh ben j'allais pas faire tous les détails. Donc vous voyez que votre explication, elle a été construite.
Mais ça n'est pas mon explication.
Je ne dis pas que c'est la fausse.
Allez.
C'est écrit noir sur blanc dans le cahier des charges.
Pour conclure, je dirais aux visiteurs, welcome to Disney World.
Welcome to Disney. Franchement, vous êtes dur. Philippe, essayez, si vous pouvez me la faire en 30 secondes, ce serait merveilleux.
Est-ce qu'on peut arrêter le JO bashing?
Vous m'avez vu faire du JO bashing ce soir?
Non, je m'adresse à mes contradicteurs, vous m'avez dit de faire court. Est-ce qu'on pourrait à un moment arrêter de faire du JO bashing? On va laisser se dérouler l'événement. On portera un jugement après. Je ne pense pas que le christianisme soit menacé à cause de cette affiche. Je ne suis pas un admirateur de cette affiche.
Mais arrêtez de rire, ce n'est pas drôle en fait.
Mais si, parce que vous n'êtes
pas drôle. En fait, ça ne fait pas rire.
Non, mais là vous voyez le mal partout. Alors, il y a des raisons de voir le mal, mais là, pour le coup, non. Si vous voulez, là, je pense que non.
Quand je pense qu'il y a des gens qui disent que CNews est une chaîne qui dit la même chose et toujours dans le sens de Bolloré, en vous écoutant, je vois qu'il y a un vrai débat.
Mais c'est une chaîne où l'expression est libre. Non, mais nous le répétons,
je n'ai pas entendu le début de votre propos.
Je vais le dire à l'ARCOM, le débat qu'on a eu ce soir. Oui. Moi, je maintiens que je suis triste pour ma ville. Et je n'ai rien, contre les JO.
Il faut que je rende l'antenne. Bon, on peut la remettre une dernière fois, cette affiche. Essayons de nous dire peut-être, oui, qu'on va vivre un bon moment, que le monde va nous regarder, qu'on va avoir des exploits sportifs. L'important, c'est de participer, disait le baron Pierre de Coubertin.
Situs,
altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Et bien, c'est ce qu'on souhaite à Paris et à la France pour ces Jeux de 2024. Merci de nous avoir suivis. On va tous se réconcilier autour d'un bon verre d'eau dans quelques secondes. Voilà. Martin Mazur, Thomas Leroy, Coralie Delaplace ont préparé cette émission. Demain, c'est mercredi. Il y aura un troisième soir info de la semaine. Donc, et bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve à demain. Bonne nuit, à demain.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.